Radio
01.net présente.
Inférieur à 3.
Avec
Fibre Tigre
et Michel Pimpon.
Par Alvin. Salut à tous, c'est Alvin et vous écoutez le deuxième numéro d'Inférieur à 3, car ils sont deux, donc Inférieur à 3. Et comme chaque mois, se trouvent à mes côtés deux gentlemen du jeu vidéo, Fibre Tigre et Michel Pimpon. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Alvin.
Bonsoir.
Au programme de cet épisode, pas un mot, pas un seul sur GTA V, mais bien sûr le courrier des haters, les chroniques de nos deux amis, du débat évidemment, ainsi que l'impitoyable Final Lap, mais on commence avec la VHS. On commence donc avec la VHS, un jeu oublié dont nous avons retrouvé la trace dans nos archives secrètes. Et c'est Fibre Tigre qui commence avec The Tenth Planet. Mais qu'est-ce donc ?
Eh bien, alors est-ce que vous connaissez Bethesda ? Ça vous dit quelque chose ?
Oui, vaguement.
Skyrim, voilà, ok. Donc en fait, on a tous fantasmé d'avoir un petit jeu à soi. Et je crois que Michel a chez lui un Might and Magic perso. C'est-à-dire customisé.
Oui, c'est tout à fait vrai.
Voilà. Et un jour, j'espère qu'il nous en parlera. Vous imaginez une cartouche de jeu vidéo à un exemplaire. Et lui, il en a un. L'enfoiré. Voilà. Mais là, bon, on va parler de quelque chose d'un peu plus dématérialisé. Donc, Bethesda, Skyrim, on est en 97, un peu avant en fait. Et ils se disent, ouais, ce serait bien de marcher sur les plates-bandes un peu de Wing Commander, de X-Wing. On va faire notre Skyrim, enfin notre Elder Scroll spatial, wow, avec de la Space Sim, quoi. Et donc, ils montent ce jeu qui s'appelle The Tenth Planet, avec des développeurs qui sont encore chez Bethesda, et assez prometteur, assez beau, mais développement traîne un peu en longueur. Et aujourd'hui, VHS porte bien son nom parce que le seul officiel, seule chose qui nous reste, c'est une VHS justement démo qui est aujourd'hui sur Wimeo. Donc on mettra le lien éventuellement sur le site.
Bien sûr.
Mais il y a également, dans certains cercles autorisés dont je fais partie, une démo non officielle qui circule. Et là, on joue. Alors, effectivement, on s'aperçoit que c'est un jeu qui, en 97, datait un peu. C'est-à-dire, on est un peu au graphisme de 92-93. Donc, on comprend pourquoi il est pas sorti. Mais on a une démo qui est complètement impressionnante parce qu'elle n'a aucun texte. Et donc, là, on joue à un jeu, une Space Sim narrative avec des séquences vidéo comme on les aimait bien dans les années 90, sans doublage, sans texte, tout est silencieux, on est dans l'espace. Voilà, expérience Gravity, mais avec le côté Star Wars, et c'est absolument fascinant, incroyable à jouer. C'est dommage que Bethesda ne l'ait pas sorti au final, mais peut-être il y aura un revival comme il y a eu des revivals d'autres jeux.
Et pas une seule flèche dans le genou dans l'espace.
Oui, mais alors j'aurai une anecdote un jour sur les flèches dans le genou parce que j'ai trouvé l'origine d'où ça vient. Voilà.
Alors Michel Pimpon, est-ce que vous seriez parti à la conquête de cette dixième planète ou de toute façon elle était trop lointaine ?
Faut pas se mentir, une planète, la dixième planète, est-ce que c'était déjà l'époque où Uranus était sorti du système solaire en même temps que Pluton ?
Uranus n'est jamais sorti, il est toujours là.
Si c'est pour faire un mauvais jeu de mots, monsieur, je vous ai un peu tendu le bâton pour
oui,
vous faire battre.
Oui, je sais. Les Space Sim, vous aimez ça ?
Avec modération.
D'accord, ok.
Mais je sais aussi reconnaître le beau jeu.
Et toi, Alvin ?
Ça va aller, écoutez, je...
je n'y attendais pas qu'on me demande mon avis, on ne demande pas mon avis dans cette émission.
Oh. Moi, alors j'adore les Space Sim et je pense que Frontier Elite, c'est un jeu absolument fabuleux. Et codé en assembleur, qui plus est, on en parlera peut-être un jour.
Et voilà. Bien, on va aussi mettre le lien et puis on va passer à notre deuxième VHS. On va parler de Fruity Frank, Michel Pimpon.
Mais oui, Fruity Frank. Bon, alors avant d'en parler, ce que je vous propose, c'est que je vais vous le chanter.
Il ne fait que chanter ce soir, c'est insupportable.
Non, mais attendez, je vais vous le chanter. Premier niveau, Fruity Frank, c'est parti. La 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 la.
C'est entraînant.
C'est pas fini. La 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 la.
Faut absolument l'arrêter là.
La 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 la. Voilà, c'est ça en boucle. Ça c'est le premier niveau de Fruity Frank. Alors Fruity Frank, mais si, rappelez-vous, Fruity Frank, c'était un jeu d'arcade signé Kuma Software, sorti en 84 sur Amstrad. Je t'adore 6128. J'ai rajouté je t'adore au milieu hein, parce que ça se fait sur internet. Vous incarnez Frank qui est une figure disons angélique et mystérieuse. C'est comme l'histoire d'un gars qui est décidé à cueillir des fruits appétissants. Bon, c'est quand même un peu léger comme pitch. petit jeu de mots que je vous laisse là. Hop. Sous la menace, donc, il cueille des fruits. Sous la menace de monstres ultra chelous, des grandes têtes sur pattes, avec le nez qui bouge. Je me rappelle même de ce détail. Ils avaient un grand nez et le nez bougeait. C'était hyper bizarre. Et ces monstres rappellent un peu les personnages du Carnaval de Nice, pour vous donner un peu une idée. Donc, on sent clairement l'influence du LSD dans le travail de Kuma Software. Et même si on dit ça pour la blague, bien détrompez-vous, puisque après plusieurs recherches sur Internet, on s'aperçoit que Kuma Software, qui veut dire donc un ours en japonais.
On l'a appris grâce à Tekken.
Voilà, on l'a appris grâce à Tekken ou Linalco, ou enfin, on l'a appris quoi. Kuma Software, c'est une société de développement de jeux qui a des relations totalement bizarroïdes avec les mouvements sectaires, notamment la secte Aum au Japon. Mm-hmm. Je n'invente rien, ou presque. Donc, si j'ai souhaité évoquer ce jeu en deux mots comme ça, c'est parce que derrière le challenge de ce jeu qui était quand même très difficile, on perd tout le temps à Fruity Frank, se cache quand même une œuvre matrice, l'ancêtre de Rez, donc une sorte de trip de style synesthésie qui mêle donc couleur, son, réflexe et un petit bonhomme peinard qui veut cueillir des grosses bananes. Voilà.
Alors, Fibre Tigre, est-ce que vous auriez aimé jouer avec la banane de Frank ?
Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a quelque chose d'assez intéressant. Il faudra qu'on en parle un jour. On fera une émission de 5 heures sur les fruits.
Avec plaisir.
Parce que il y a une obsession maladive dans les années 80 sur les jeux avec des fruits. Préhistorique, il fallait ramasser des fruits. Pac-Man, il fallait ramasser des fruits. Squix, il y a que moi qui connais ce jeu, il fallait ramasser des fruits. Et aujourd'hui, à part Fruit Ninja, c'est plus le cas. Alors, c'est peut-être la régénération hamburger.
Au moins, à l'époque, on arrivait à faire 5 fruits et légumes par jour assez facilement.
Et oui, bien.
Non, il faut les couper.
Putain, non, on aligne les vannes. Hein.
Ouais, mais ouais.
Ok. Et deuxième chose. Je vais parler de quelque chose d'un peu plus contemporain parce que les sectes et jeux vidéo, oui, ça se fait. Est-ce que vous connaissez bien sûr l'Odyssée d'Abe?
Oui.
Et les créateurs de l'Odyssée d'Abe,
je sais pas
si vous les connaissez, sont des mecs cheveux longs, ouais, dans un ranch au Texas avec prière tous les jours et secte et compagnie.
Ils
et c'est des mecs complètement éliminés.
Ils sont pas suédois, les gars
ils sont du comment ça s'appelle de l'Amérique, en tout cas le premier, hein,
la campagne américaine. Edward, ouais.
voilà.
Donc c'est Waco.
C'est plutôt New Age, Raël, les ovnis sont parmi nous, c'est hyper flippant. Et je pense que leur jeu véhicule justement les idées de la secte. Voilà.
Eh ben,
mais
écoute,
bon jeu.
C'est un très très bon jeu. Hein.
En même temps, on sent que leur mouvement est périclité puisqu'ils n'ont pas sorti depuis un très long moment.
Oui, c'est vrai.
Ouais, mais ils sont toujours au travail puisqu'ils vont faire des remakes avec Just Add Water.
C'est ce qu'ils sont. Ils sont en train de les sortir un par un, mais des nouveaux jeux, on en est encore très très loin. Je pense qu'on va en rester là et puis on va plonger au fond de l'océan pour retrouver le Game Shark.
Game Shark.
Le Game Shark, c'est la chronique de Fibre Tigre qui nous emmène cette fois-ci dans l'enfer du jeu en ligne, ou plutôt dans de petits havres de politesse qui existeraient dans le monde online. Dis-nous en plus, Fibre Tigre.
Eh bien, aujourd'hui, on va essayer d'aller contre les idées reçues. On va parler du multijoueur aimable. Alors, il y a un cliché quand on parle du multijoueur, c'est le fameux...
Le Kevin.
Le mec qui t'envoie un message après une partie qui dit « Enfoiré, j'ai ton adresse, je vais niquer tes parents », tu vois.
Sur League of Legends, ils le font dès le début en disant « Ah, tu es level 1 !»
Oui, voilà. Oui, ça, ah oui, mauvais esprit
les
du jeu,
a priori, même.
Du multijoueur. On rajoute par-dessus une petite couche qui date de l'année dernière les filles se font maltraiter en ligne.
Toujours.
Alors que moi, personnellement, mes amis Xbox, c'est genre Angel, Caramel et... je sais pas du tout si ce sont des hommes ou des filles. Ils ont des prénoms un petit peu neutres.
Bah, Angel n'a pas de sexe, par
excellent,
définition.
Excellent, excellent. Et donc, moi, personnellement, je me suis mis sérieusement au multijoueur avec l'intention de l'étudier et j'ai eu des expériences mais fabuleuses et toutes positives.
Dans quel genre ?
Alors, je vais citer trois jeux qui vont pas vous surprendre mais qui sont vraiment symboliques. Ils ont trois mécaniques de gameplay multijoueur très très particulières. Donc le premier, c'est Journey.
Facile.
Voilà. Donc Journey, de toute façon, il incite pas à tuer des gens quand vous avez terminé une partie de Journey. Et en plus, le multijoueur, on l'apprend et c'est un peu la surprise déjà. Voilà. Et Journey, c'est un peu facile, on est en coop. On peut difficilement emmerder son voisin. Et en plus, on a un contexte qui est relativement poétique, assez intéressant.
Assez paisible en tout cas.
Voilà. Ensuite, il y a un jeu un peu plus récent qui s'appelle Borderlands 2.
Effectivement, oui.
Donc voilà, donc là on est encore dans le coop et on peut être dans le coop écran splitté qui est très bien, mais surtout on peut être dans le coop multijoueur à distance. Et là on a des mécaniques de gameplay qui favorisent le coop. Autrement dit, si vous êtes à terre et que quelqu'un vous réanime, alors qu'il a, même s'il n'a pas besoin de vous, il gagne des points d'expérience. Donc il y a un intérêt réel à vous réanimer, même s'il vous déteste. Il y a également le fameux partage de loot. Quelqu'un vient de prendre le fusil que vous vouliez, vous le défiez en duel. Cette personne peut accepter ou non, mais si vous êtes quelqu'un d'honorable, vous acceptez le duel et vous vous battez pour le loot.
Il ne faut pas se défiler quand même. Hein.
Voilà, enfin, vous pouvez vous défiler, mais bon, après, il y a tellement d'opportunités de rebondir que ça se passe bien. Il y a une mécanique sur Journey qui m'intéresse aussi, c'est le fait qu'on ne puisse pas communiquer par micro. Et le fait aussi que, et on en verra dans le dernier exemple qui s'appelle Dark Soul, qu'il y a une normalisation des échanges. C'est-à-dire que, en fait, on peut juste appuyer sur un bouton pour communiquer dans Journey. Et donc, si la personne en face de vous, elle est au Nigeria ou en Corée, bah, en fait, voilà, il y a le langage corporel qui est un peu plus universel. Et on arrive dans Dark Soul, qui est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et je vais en parler plein de fois et je vais vous saouler avec, je suis désolé. Soul, moi aussi je fais mon petit jeu
de mots. C'est très sympathique, je vous encourage.
C'est de mieux en mieux.
Très bien.
Je fais des efforts, rééducation d'handicapé.
Non, mais on voit ça et on apprécie. Voilà. Je pense que nos auditeurs apprécient également.
Voilà. Et donc dans Dark Soul, il y a un multijoueur extrêmement complexe, mais donc il y a cet aspect. Déjà, donc on va parler de l'aspect communication. Donc là, vous pouvez poser un message ou communiquer avec des gens, soit par un langage corporel, soit par des mots qui sont normés. Mais c'est fou qu'ils sont déjà prédéfinis par l'utilisateur.
Une centaine de phrases qu'on peut déposer quelque part et rien de plus.
Voilà, exactement. Mais quand vous les déposez en français, votre joueur coréen, lui, il les lit en coréen.
Évidemment.
Donc déjà, il y a l'universalité qui est reconnue. Ensuite, ce qui est intéressant, je vais passer outre les milliers de facettes du jeu gameplay, mais comme l'univers est extrêmement oppressant, un jour, j'avais une partie récemment avec quelqu'un, et donc il y a eu un personnage en multijoueur qui a été invoqué. Et ce personnage a été très aimable, c'est-à-dire qu'il a tué les gens à côté de lui. Et on est tellement oppressé par ce jeu que la moindre aide, on a envie de lui faire des bisous. Quoi. On
c'est
a envie
la
d'avoir son
lumière
nom.
Dans les ténèbres.
Voilà, exactement, c'est exactement ça. Le contexte du jeu a fait que toute action de l'autre est honorable. Et il y a un PVP quand même dans Dark Souls, agressif, mais c'est pas il existe, je suppose, le PVP salaud où le mec arrive par derrière et te poignarde, mais moi, toutes mes expériences PVP sur Dark Souls, c'est un mec qui s'approche de toi, qui te salue, voilà, tu le salues, et le combat peut commencer.
C'est très galant.
Ah, mais c'est la classe, tu vois. Mais bon, c'est tellement un contexte extrêmement agressif tout autour que c'est un
peu d'humanité dans un jeu très difficile et très
exactement. Et donc il faut voir, je donne aussi un dernier point dans Dark Souls et après j'arrête de vous saouler avec, c'est que il y a aussi un coop malgré soi, c'est-à-dire que quand vous êtes un sorcier, vous lancez un sort, un autre joueur va voir l'endroit où vous avez lancé ce sort, et s'il lance le même sort au même endroit, son sort sera décuplé. C'est l'effet de synergie. Également, si par exemple vous alimentez un feu, les feux sont les points de sauvegarde du jeu, eh bien, toutes les personnes qui sont dans des sessions proches de vous vont avoir un petit bonus de vie.
Oh, c'est
donc,
mignon.
Voilà. Donc en permanence, on est complètement seul dans Dark Souls, mais on n'est pas vraiment seul. Voilà. Alors ça, la morale de tout ça, c'est que effectivement, quand vous jouez à Call of Duty, que vous êtes sous pression, vous êtes dans un univers concurrentiel, et que tout d'un coup vous avez une déconnexion rapide, sauf si vous avez toute la philosophie de Socrate, c'est sûr que la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de tuer encore des gens autour de vous. Donc la première chose que vous faites, c'est vous envoyer un message disant « je vais tuer tout ça », etc. Mais quand vous avez des jeux qui sont construits pour, on va dire, structurer un multijoueur intelligent et riche, eh bien forcément vous avez un multijoueur une expérience unique, voilà. Et aujourd'hui, on va y avoir Dark Souls 2 bientôt, j'espère que les jeux vont aller dans ce sens-là. Voilà.
Alors Michel Pimpon, pensez-vous qu'un jeu en ligne courtois est possible, ou en tout cas avez-vous envie de partir à sa recherche?
La courtoisie, vous savez, c'est mon dada. Donc de ce point de vue-là, je ne peux que saluer les initiatives ponctuelles qu'a mise en lumière l'ami Fibre Tigre. Maintenant, effectivement, concernant Dark Souls, je pense que c'est une exception à l'intérieur d'une exception. C'est-à-dire que le jeu, c'est un peu un jeu pour Happy Few, avec une difficulté absolument redoutable. Donc,
Alors, objection.
Vous faites une objection.
Objection.
C'est pas très pipou,
objection,
ça.
Objection.
C'est pas
justement, pipou. Justement, Dark Souls, c'était un jeu infernal.
Oui.
En solo. C'est-à-dire, je l'ai fini en solo, mais j'ai fait le fameux boss de milieu de jeu qui est infernal peut-être 80 fois. J'ai pompé toutes les solus, je connais le jeu par cœur, etc. Infernal. Mais en multijoueur, c'est un des jeux les plus simples du monde parce que vous n'avez qu'à invoquer un mec qui vous salue, il vous donne du loot, il vous tue tous les monstres, il vous fait le boss. Il vous dit au revoir.
Mais c'est un peu un joueur qui joue à ta place à ce niveau-là.
Effectivement, mais c'est pour ça que ça devient un jeu facile. Voilà, par la courtoisie.
Ouais, c'est un peu par la bande. Donc, écoutez, oui, il y a une objection qui a coupé ce que je voulais dire. Donc, je trouve pas ça très aimable en matière de multijoueur ce soir. Mmh. Je trouve ça un peu cavalier. Vous m'excuserez. Mais je note aussi que vous avez parlé de coop malgré soi et ça a évoqué pour moi des images de buddy movie ou de films avec Sandra Bullock. Voilà.
Ce qui est quand même très ennuyeux et très différent.
C'est un peu problématique, je ne vous cache pas, pour ma psyché.
Il y a Gravity qui sort bientôt et excellent film, paraît-il, avec Sandra Bullock.
Alors, permettez-moi de vous interrompre, mais le facteur est passé et je pense qu'il est plus que temps pour nous d'ouvrir le courrier des haters.
Le courrier des haters,
nous avons donc intercepté, comme chaque mois, les courriers de tous les haters de la planète envoyés à toutes les stars du jeu vidéo autour de ce monde, et on commence avec une première lettre signée X et adressée aux haters de David Cage. Alors ça fait beaucoup de monde, un vrai cri contre internet. X, à toi la parole.
Oui, alors c'est X, mais vous pouvez m'appeler Jason, hein, bien sûr. Bande d'enfoirés, de tocards, de haters, mais qu'est-ce qui vous passe par la tête pour détester comme ça David Cage? Je vous préviens, ma fureur est énorme, je vais tout casser. Comment osez-vous vous attaquer à un monument pareil? Et vous avez vu vos arguments? Non mais tu m'étonnes que le jeu vidéo doive encore grandir, vous avez 8 ans d'âge mental ou quoi? Incroyable. Oh là là, David Cage, il s'appelle Grutola, ça ressemble à Nutella. Non mais hey, les gars, faut grandir les mecs. Hein,
c'est bon le Nutella.
Non mais oui, c'est bon, mais ça n'a rien à voir, rien à voir. David Cage, comme Nicolas Cage ou Johnny Cage, trop marrant. Non mais stop, on arrête, stop. Mm-hmm. Lui au moins, David, il reste cohérent, il a le même pseudo depuis qu'il a 20 ans. Hein, on peut pas en dire autant de toi, hein, pas vrai, Kiki Rigolo quand t'avais 9 ans.
Il a la même coupe de cheveux aussi.
Hmm, Kiki Rigolo, puis Sephiroth du 91, puis ensuite The Dead Dream, et maintenant Louis tout court.
Il manque un At avant, je pense, mais...
Atta
At Louis pas du tout court, non même
c'est
pas.
Faux. Non, mais un haters... non, mais attendez, j'essaye de hater les haters, c'est déjà suffisamment compliqué pour moi.
Je comprends.
Arrêtez, parce qu'en matière d'arguments, ça s'arrête pas là. C'est terminé. Oh là là, il a un accent pourri, David Cage, c'est pas possible. Et toi, connard, t'as 1050 au TOEFL, peut-être? Tu crèches au Wall Street Institute? Non, mais n'importe quoi. Oh là là, David Cage, il fait des jeux, il fait pas des jeux, il fait des films avec des QTE. Et toi, tu fais quoi, connard? Ils sont où, tes jeux? J'en peux plus, je vous dis. J'en peux plus des haters de David Cage. Beyond Two Souls n'est même pas sorti. Voilà, le verdict est déjà connu. Présumé coupable. C'est le suspect idéal. Alors quoi? On n'a plus le droit d'aimer les émotions? En plus d'être désattardé, vous n'avez même plus de sentiments? Vous, les haters, avez-vous donc une âme? Je ne vous salue pas, X. C'est-à-dire Jason.
Les haters se sont rassemblés pour répondre à notre fan hardcore.
Ah oui, alors, réponse du collectif des haters. Cher Jason, ça tombe bien, Beyond Two Souls est sorti hier. Edge Magazine, 5 sur 10. Game Cult, 5 sur 10. Eurogamer, 5 sur 10. IGN, 6 sur 10. Gameblog, 10 sur 10.
Bizarre.
Tu as choisi ton camp, nous avons choisi le nôtre. Maintenant, cher Jason, nous avons envie de te presser contre notre cœur, les haters.
C'est quand même très très violent hein, ce qui se passe. Hein. C'est pas très aimable.
Mais alors, mini parenthèse. Néanmoins, Jason est assez correct sur une chose, c'est que la critique est facile et l'art est difficile. Tout le monde sait que le film interactif, c'est pas très bon. Il a persévéré dans sa voie. Bon, voilà, il a les notes qu'il a, c'est un bon jeu d'accès, voilà.
Il y a des chances qu'on en reparle. On va passer une autre lettre anonyme cette fois-ci, ce qui n'est pas très poli, j'ai envie de vous dire. Elle est destinée à un riche réalisateur retraité, George Lucas.
Alors, lettre anonyme. Cher George Lucas, bon, pour Jar Jar Binks, j'ai rien dit. Pourtant, il y avait du lourd. Quand j'ai appris qu'en 1986, vous aviez créé le premier MMO graphique de l'histoire avec un système de quêtes et un abonnement mensuel avant l'existence du web et que vous l'aviez abandonné, j'ai été surpris. Quand vous avez abandonné le point and click, j'ai eu quelques sueurs, mais bon, avec Full Throttle 2 qui partait en sucette, j'ai pas moufeté. quand vous avez laissé tomber les Space Sim, alors que X-Wing et TIE Fighter, c'était de la bombe atomique, j'ai commencé à me faire du souci pour vos décisions. Quand vous avez laissé partir Ron Gilbert, Tim Schafer, Brian Moriarty, un par un de vos boîtes, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là, vous laissez tomber. Aïe, LucasArts fera plus de jeux. Ce sera juste une vague holding de licence qui permet de faire des jeux au top du top comme Indiana Jones Lego. Putain, mais Georges, comment on peut passer de X-Wing à Indiana Jones Lego? Comment on peut passer des aventuriers de l'Arche perdue au crâne de cristal? Comment on peut passer de la tranchée de l'étoile noire à la course de pod? Qu'est-ce qu'il faut pour vous redonner le mojo, Georges?
Piqué dans son orgueil, George Lucas a daigné nous répondre en sortant de son jacuzzi et en saisissant son iPad.
Hey, buddy!
Alors, je ressens votre colère. Je la comprends. Je la comprends, mais c'est une abstraction pour moi. Imaginez une belle équation. C'est joli, une équation. C'est joli, et puis c'est mystérieux aussi. Les factorisations, ça a quelque chose de magique. Une vraie vibration chamanique. Le sens de la vie dans une tasse de peyote. La vallée de la mort de nos jours, c'est Hollywood. Le 24 images secondes, ça va même plus assez vite pour les kids. Vous voyez le tableau?
Oh là là, très bien.
Tout ça pour vous dire que je suis officiellement, cliniquement mort depuis environ la menace fantôme. En gros. Donc vos petites histoires de fanboy, vous savez... Moi, non. Mais je ne vous en veux pas. Après tout, vous vivez dans un monde cruel et privé de sens. Continuez de scruter les étoiles. Je resterai pour toujours votre ami George.
George Lucas appartient donc au passé, on le retrouve très vite au XXe siècle, mais soudain, un visiteur surprise s'invite dans l'émission. Voici venu l'heure du Game Genie. Le Game Genie, c'est la chronique de Michel Pimpon qui, depuis notre dernière émission, s'est replongé dans Mirror's Edge et cela, semble-t-il, était riche en enseignements.
Tout à fait, tout à fait. J'ai relancé Mirror's Edge, ça fait 2 ans en fait que j'y avais pas touché et je me suis un peu débarrassé de la corvée de l'histoire parce qu'on va pas se mentir, l'histoire était un peu maladroite.
Vite fait, ouais.
Et je me suis véritablement plongé complètement dans ce jeu et je me suis pris au jeu. Et donc je vous propose de partager avec vous, chers petits amis, les leçons de ce deuxième run. La première chose qui m'a frappé en relançant Mirror's Edge, c'est que le joueur découvre une forme de contemplation paradoxale. C'est-à-dire que la contemplation est une dominante de Mirror's Edge, mais elle reste paradoxale. Paradoxale parce que d'un côté, Faith, le personnage principal, c'est le personnage qui court, donc il y a vraiment une notion de course effrénée. Une
de
course
vélocité.
Voilà, c'est ça, la vitesse à l'état pur. Et il y a quelque chose qui s'oppose à ce besoin d'aller toujours plus loin, c'est la contemplation pure, donc qui demande de s'arrêter, d'ouvrir les yeux, de faire un espèce de panoramique, et ne serait-ce que contempler la skyline, contempler le bleu du ciel, contempler un vol d'oiseau. Bon, je sais que c'est très lyrique et que vous avez tous envie de presser X pour Jasoner. Contempler ces drapeaux qui flottent au loin, la ville ouverte, une ville qui est presque une ville offerte, et bien sûr la rue à nos pieds. Et quand je dis la rue à nos pieds, en fait, c'est pas anodin parce que ce qui est super important dans cette notion de contemplation, c'est le body awareness du personnage, c'est-à-dire le fait que quand on baisse la caméra, on voit les pieds de Faith, quand on peut voir de temps
ses
en temps
mains
ses mains,
pas quand on court.
Voilà, tout à fait. Et quand on fait une roulade, normalement, on voit un peu ses pieds. Enfin bref, voilà quoi.
Quand on fait une roulade.
Comme on fait une roulade, voilà. Et faites une roulade avec une GoPro. En rentrant la tête parce que sinon vous cassez votre GoPro, vous allez voir ce que voit Faith. Donc c'est ça qui est intéressant, le body awareness. Et ce body awareness fait qu'on incarne, on n'a jamais peut-être autant incarné un personnage dans un jeu vidéo.
À ce point-là ?
Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un véritable plaisir de découvrir et de jouir du corps de quelqu'un d'autre. Alors, je vois un peu les mauvais esprits. Merci de rester à l'écart. Je reste sérieux, hein, là-dessus, s'il vous plaît.
On est sérieux.
Mais cette contemplation, c'est ça. Elle tient aussi à ce plaisir de ce corps qui est celui de quelqu'un d'autre, d'une femme. Découvrir les mains, les pieds, son reflet qu'on voit de temps en temps dès le prologue, le reflet dans
les vitres des immeubles
dans un building, et surtout un truc moi qui m'a toujours frappé, c'est la respiration de Faith qui se fait plus lourde, plus présente dans la bande son à mesure qu'on sprint, parce qu'il y a la course disons standard où on n'entend pas trop Faith respirer fort, et plus on accélère ou si on s'arrête pas, en fait on l'entend respirer de plus en plus fort, et donc selon la foulée c'est un peu différent. Et ça, cette forme de contemplation, donc de manière générale, qui est liée au body awareness, s'oppose à l'urgence qui est la survie de Faith, parce que de manière tout à fait prosaïque, si Faith ne court pas, elle meurt.
C'est une fuite en avant, ce jeu.
Oui, tout à fait.
Il me semble que quand elle court et qu'elle elle respire vite, il y a un moment, il y a de la techno qui se met en place et qui enclenche sur le son de sa respiration.
Il peut y avoir deux, trois endroits où il y a des scripts, en effet, ouais.
En fait, quand tu cours vite, ouais, et tu fais vraiment un run sans là, ça devient bleu. Il y a un flash bleu. Il y a de la techno qui se met en place. Enfin, genre un petit beat. Et ça reprend la respiration. Je pense que c'est genre tu fais qu'un avec la course, quoi, tu vois.
Ouais, bah ça fait, ouais, comme dit comme ça, on dirait vraiment du marketing de Nike, mais très honnêtement c'est ça, en fait. L'objectif, quoi, c'est totalement assumé.
Si Nike faisait un mirror edge pour vendre ses chaussures, j'en achèterais 10 tonnes.
Peut-être que j'irais courir. Je suis d'accord. Donc voilà, c'est ça, effectivement, c'est une fuite en avant, parce que si elle court pas, elle risque de mourir, et si elle ne s'arrache pas donc à la contemplation, qui est quand même aussi une part très importante.
Un risque en même temps, on comprend.
C'est un risque, voilà. Elle risque de mourir. Il y a une vraie ligne de tension entre donc l'intériorité et l'extériorité, son regard, l'environnement, tout ce qu'elle, son rapport au monde, et une espèce de quête qu'elle porte en elle-même, qui l'amène plus loin. Ça, c'est donc une des premières leçons que ce deuxième run m'a appris. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé l'interprétation, de manière très générale. L'interprétation a un rôle très important dans Mirror's Edge, puisque interpréter, c'est voir des motifs, et c'est à la fois dans le gameplay et dans la structure, dans les thématiques proprement dit de Mirror's Edge.
Et Mirror's Edge est assez riche à ce niveau-là, donc.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, si je puis me permettre de citer un poète obscur du 19e siècle qui s'appelle Charles B.
S'il vous plaît.
Il y a des vers qui sont assez drôles parce qu'ils rentrent en résonance avec ce que propose Mirror's Edge. Je vais vous le lire sans le slammer. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Voilà.
Donc, tout est dit, là.
Donc, voilà.
C'est beau, mais ça s'applique bien à Mirror Edge, mais ça s'applique aussi à plein de jeux de vidéo, quoi.
Ben,
la forêt de symboles, on se croirait tellement...
Forêt Kokiri de Legend of Zelda ou...
Oui, bien sûr. Je vois que vous voulez encore parler de David Cage, mais je trouve ça un peu excessif de plaquer comme ça partout.
Non, mais comment dire, la plupart des jeux maintenant, ils ont ce fameux affichage HUD.
Ouais.
Et il y a des symboles en surimpression, en réalité augmentée, en pseudo-réalité augmentée. Donc la forêt de symboles, elle va bientôt être autour de nous, quoi.
Mais... pour revenir plus précisément à Mirror's Edge, cette forêt de symboles, en fait, c'est au joueur, et donc, enfin à Faith et donc au joueur, de savoir la décrypter, de savoir l'interpréter. Puisque interpréter, c'est aussi survivre dans Mirror's Edge. Puisque interpréter, c'est savoir retrouver la sortie, retrouver la solution, un tremplin, le prochain tuyau à attraper, etc., etc. Et on a parlé pour le poème de Baudelaire, donc correspondance verticale et horizontale d'un point de vue plus littéraire, mais ce qui est assez drôle, c'est que dans Mirror's Edge, il y a aussi des correspondances horizontales et verticales, mais avec un sens un petit peu différent.
Je m'explique. À quel niveau, donc ?
Je m'explique, voilà. Les correspondances verticales, ce serait cette ville, par exemple. Cette ville, c'est une ville qui est debout. C'est une forêt de symboles, on pourrait dire, d'ailleurs.
Elle est verticale, effectivement.
Des buildings. Mais le symbole de la verticalité à l'état pur, c'est quand même Faith, qui est la femme, on pourrait dire, la femme la plus debout qui soit, parce qu'elle est en marge de cette société. Et il y a un plan, notamment au début du jeu, où elle domine toute la ville parce qu'elle est perchée... en haut d'une grue, je crois, qui est elle-même en haut d'un building.
Et elle se tient debout aussi face à l'oppression Big Brother.
Voilà, c'est exactement ça. Et cette position de femme debout, cette verticalité, c'est aussi la position de la contemplation. C'est aussi la position d'un phare. Et le terme de phare n'est pas anodin. À l'inverse, l'horizontalité, c'est la course, c'est l'horizontalité de la rue, c'est l'horizontalité des autres humains, qui sont donc plus sous forme de troupeau, et elle se tient debout, se tient à la marge.
Il y a aussi pas mal d'éléments de parcours avec un K qui se font à l'horizontale, genre quand on glisse sous des...
Oui, tout à fait.
Sur Arbé, il y a beaucoup de choses qui sont montées complètement allongées sur le sol, quoi.
Oui, tout à fait. Bah, il y a à la fois il y a des niveaux qui sont construits de manière vraiment horizontale, donc c'est un vrai motif pertinent. Il y a des niveaux qui sont construits comme, si j'ose dire, une anabase, quoi. Donc il s'agit vraiment d'aller vers la lumière, quoi. Et la lumière permet de faire une transition que j'estime habile avec Fès comme phare, puisque on a dit que Fès était une forme de phare, parce qu'elle était la femme la plus debout, la plus verticale qui soit, mais c'est aussi la position de phare, c'est aussi la position la plus grande solitude. Et elle porte en elle le motif de cette course, on s'aperçoit que Faith court de plus en plus pour elle. En fait, il y a un prétexte pour courir, mais ça devient quelque chose de secondaire de plus en plus. Si elle est coursière et qu'elle doit livrer des informations, petit à petit, on s'aperçoit que toute la couche de scénario, toute la couche de l'intrigue et les rebondissements, les coups de théâtre qui sont évoqués dans l'histoire, ça passe vraiment au second plan. Et en fait, le run le plus parfait pour Mirror's Edge, c'est le run en lui-même, pour lui-même. Voilà, c'est là où je voulais en venir par rapport à la contemplation et par rapport à ce motif-là. Voilà. Donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est que des leçons de ce deuxième run, c'est que Mirror's Edge, c'est une forme de bouteille qui propose un parfum. Donc, je cite encore Baudelaire, puisque les parfums, les couleurs et les sons se répondent, et il propose l'expansion des choses infinies qui chantent les transports de l'esprit et des sens.
Fibre Tigre, alors assis, debout ou couché devant ton miroir, toi?
Alors, chronique très intéressante, merci Michel, sur un très beau jeu qui s'appelle Mirror Edge. Et déjà, mini remarque, il a commencé en disant l'histoire n'est pas tip top. L'histoire est pas mal.
Il y a une histoire, c'est déjà ça.
L'histoire est honnête, elle n'est pas absurde et elle n'est pas décevante comme des gros hits qui ont pu sortir en fin d'année et qui vont sortir d'ailleurs et qui ont ni queue ni tête.
J'ai envie de dire, c'est le meilleur scénario qu'a pu sortir DICE parce que Battlefield, c'est pas trop ça.
Et Battlefield Bad Company,
alors. Battlefield Bad Company, il est vraiment très bon.
Je mettais ce point, effectivement.
Voilà, c'est vrai. Mais bon, ceci étant, en plus, c'est une histoire à la Big Brother de l'analogie contre le numérique. Qui, à mon avis, si vous le dites à votre grand-mère ou à vos parents, ça va ring a bell, quoi. Voilà, exactement. Sinon, et je trouve la dimension contemplative est excellente, elle est bien résumée par Michel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a un autre effet paradoxal, c'est que la plupart des jeux vidéo, on y joue, et quand il y a un phénomène de cult following derrière ce jeu, les gens se mettent à faire, je sais pas, des runs pacifiques ou des speedruns par exemple, et là en fait paradoxalement on a envie de rejouer au jeu et de le regarder enfin parce qu'on a passé la première partie à speeder parce que c'est le jeu, et effectivement on s'aperçoit qu'il est hyper beau, quoi.
Il y a une vraie esthétique, c'est
pour un jeu qu'on ne doit pas regarder, quoi. Et, également très intéressant, ce jeu, il appartient à une mouvance SF qui est ultra rare dans le monde du jeu vidéo, c'est le cyberpunk hyper clean. C'est-à-dire, voilà, ça veut tout dire, vous avez compris, cyberpunk hyper clean, dans le futur,
tout est
beau. Pas forcément utopique, mais clean, quoi. C'est-à-dire, tout est passé à la Javel. Qu'on a vu légèrement...
Le futur comme on l'imaginait dans les années 50-60.
Dans quoi, Gattaca? Ouais, même pour prendre une référence vidéoludique, un tout petit peu comme Portal. D'accord. L'univers de Portal qui est très blanc, clean, chirurgien. Et aussi ce soleil, ce ciel bleu, ces couleurs primaires, on est vraiment dans des choses qui n'ont pas été exploitées par la suite, donc coup d'essai, coup de maître. Pour le mini remarque sur le body awareness, Je vais peut-être dire une énorme bêtise, donc nos auditeurs viendront me bâcher sur Twitter, mais il me semble qu'il y avait du body awareness dans Deus Ex 1.
Oui,
et puis... mais j'ai pas présenté ça comme une nouveauté incroyable. En revanche, ça nourrissait vraiment la contemplation du jeu, quoi.
Voilà. Maintenant, mais
qui est d'autres jeux qui l'aient fait, bien sûr. Oui,
bon, il y a du body awareness dans Far Cry, mais ça, c'est un petit peu la marque de fabrique. Mais en fait, dans le body awareness inutile.
Pas inutile, on a scénarisé.
La feature sympa, ouais. c'est un peu Deus Ex, quoi. Enfin, je crois que c'est ça. Juste un mot que t'as pas dit pour Face, notre ami Face. Il y a un nom un petit peu prédestiné à la pureté, à la blancheur des immeubles.
C'est pas très
immeubles.
Subtil, Ben.
Mais il y a également un achievement qui s'appelle Fille du Vent, où il faut faire trois figures hyper compliquées pour moi c'est la fille du vent, quoi, c'est la fille, et tout d'un coup il y a cet écran bleu quand tu fais un run parfait et elle court comme le vent, quoi, c'est magnifique. Et deux points et après je vous laisse tranquille, excusez-moi de parler beaucoup sur Mirage, mais il y a tellement à dire. Premier point, bravo Michel pour avoir plaqué de la poésie il faudrait faire ça plus souvent, c'est-à-dire trouver des correspondances poétiques classiques ou littéraires. Alors il y a le mythe de Prométhée dans Portal 2, mais la poésie formelle c'est très bien vu. Mais il faudra pas oublier non plus qu'un jour il faudra exhumer dans les lignes de code la puissance poétique du code, la puissance poétique du gameplay. Voilà. Et on a un jeu qui est presque aussi beau que le poème de Charles Baudelaire. Mais ça, il faudra rendez-vous dans 200 ans pour en faire le constat. Bah,
oui, en fait, il y a quand même une certaine poésie du gameplay, si tu fais une beauté du gameplay, dans la mesure où moi j'ai trouvé que le scénario était quand même so-so, quoi. C'est vraiment un peu léger, à mon sens. Et les personnages aussi, à telle enseigne que tu vois, Faith, elle est pas très sympathique. Elle est, c'est quelqu'un qui a une trajectoire de personnage qui est pas.
Tu vois, par exemple,
en fait, c'est moins Faith en tant que personne et profil psychologique tel qu'il est proposé dans le scénario qui importe que en fait cette fille du vent dont tu parles, ou cette personne qui se jette dans le vide et qui fait le saut de la foi.
Oui, mais là, une dimension un peu d'icône, effectivement. Mais en fait, même si elle est pas elle est un peu taciturne, elle veut sauver sa sœur, blablabla, etc. C'est un ensemble de prétextes. Mais le fait que justement elle soit un petit peu paravent, c'est intéressant. On peut l'incarner. J'ai un dernier point sur Mirror Edge. Allons-y. Et après, je vous laisse. Mirror Edge abat l'hypocrisie quand même, parce que tout le monde se branle sur Mirror Edge en disant c'est le meilleur jeu du monde, mais tout le monde l'a acheté à 10€ ou 7€ dans les bacs Fnac.
C'est faux. C'est mais faux. 3,24€ sur Steam.
Voilà, c'est ça.
C'est faux.
C'est ça, parce que c'est un jeu qui était un peu court, qui était particulier. Il y a eu un énorme pari de dice. Et
moi,
effectivement.
J'étais chaud dès le début, j'ai fait toi.
Ouais, ok, bon, voilà. Moi, je fais partie des gens qui l'ont acheté à 10€. Mais à culpa. Mais je pouvais pas l'acheter plus à l'époque, parce que j'ai mis si peu une mitard. Mais effectivement, quand on a des beaux jeux, faut pas les bouder. Voilà.
Bon, on verra ça pour la suite, et puis on se donnera rendez-vous, puisqu'on a toute une saison ensemble. Mais pour l'heure, dernier tour, dernière chance, c'est le Final Lap.
Final Lap.
Final Lap, vous le savez, c'est la question d'actu de la fin. Fibre Tyr et Michel Pimpan la découvrent en même temps que vous, et la voici. Si Beyond Two Souls était un jeu, combien de Spike Video Games Awards ne remporterait-il pas? Ou plutôt, combien de Razzie Awards, les Oscars de la nullité cinématographique, devrait-il gagner? En gros, Beyond Two Souls, mauvais jeu ou mauvais film, à vous de trancher. Fibre Tyr, Michel Pimpan.
C'est une belle vacherie, mais en même temps, c'est une belle question.
Beaucoup de gens ont dit les deux. Par essence, un jeu qui se veut un film, ça va donner un mauvais film et un mauvais jeu, et vice-versa. Donc, c'était perdu d'avance.
Moi, je ne condamnerais pas aussi fermement, parce que j'ai cette honnêteté intellectuelle qui, à mon avis, ne fait pas défaut non plus à mon camarade Fibre Tigre, qui est de juger ce que j'ai pu éprouver moi-même. Donc, pour le moment, c'est comme pour le premier Final Lap, en fait, les amis. Mmh. C'est-à-dire qu'on parlait du jeu dont on n'a pas le droit de parler cette semaine.
Et on n'en parlera pas.
On n'en parlera pas. Et bien, on ne pouvait pas trop juger. On avait besoin de juger sur pièce. Ben là, c'est pareil. Je pense qu'il faudrait juger sur pièce.
On connaît
on connaît le bonhomme. Voilà. Il a un passif. Mais est-ce qu'on peut présumer de ce qu'il a fait avant? Les autres reviews ont l'air de dire que c'est more of the same.
Alors, il faut voir qu'on bâche pas le genre. mais on bâche l'œuvre.
Les productions d'une personne qu'on connaît pour ça.
Parce qu'il y a eu entre-temps The Walking Dead, qui est un peu la démonstration que le film interactif peut coller aux tripes. Et il faut voir aussi que Quantic Dream, c'est les mecs qui ont fait The Nomad Soul, putain. Et The Nomad Soul, moi, c'est un jeu, j'en rêve encore la nuit. Il m'a hanté, ce jeu. Et pourtant, on commence à être dans le film interactif. Il y avait cette créativité géniale, ce monde incroyable, cette musique folle, et un gameplay pourri, mais tout était tellement beau autour qu'on y rejoue, on y rêve la nuit. Et à un moment, il a pété les plombs. Il a fait Fahrenheit, il a fait Heavy Rain, et aujourd'hui il fait Beyond Two Souls, et demain il fera encore autre chose, parce que, je veux dire, il y a des gens qui sont têtus, et ils sont têtus, et il va arriver dans sa série B X-Files, dont il rêve depuis 10 ans.
Hollywood
et,
Night.
Voilà, ouais, Hollywood Night ou X-Files, et malheureusement, c'est pas ce qu'on veut, parce que, voilà, c'est inintéressant.
Je suis assez d'accord en fait avec ce que dit Fibre Tigre. Il y a effectivement un côté ultra têtu de vue de l'extérieur, en tout cas l'impression que ça donne, c'est un côté super têtu.
Parce qu'on est beaucoup quand même à lui dire, t'es sûr de ce que tu fais, on sait quand même pas très bien, et il persiste et signe.
Alors après, il faut pas perdre de vue que les jeux précédents ne sont pas des échecs commerciaux.
Non.
Ça n'a pas été des succès gigantesques aussi.
Il a tellement injecté du marketing en tenant. Enfin, il y a une telle force marketing derrière que ça peut pas être. Même si GTA, il avait été pourri, on va dire. Il y a une telle force marketing derrière qu'il y a des ventes. Moi, je pense.
C'est une exclusivité. C'est vrai que c'est à l'avantage d'être une exclusivité. En plus, c'est très poussé par Sony.
C'est une exclu. Bon, c'est aussi un jeu d'accès. C'est-à-dire, si vous avez jamais joué à des jeux, c'est un bon jeu pour lequel commencer.
Apparemment, il est de ce que
c'est un jeu pour commencer, c'est pas un bon jeu.
Oui, c'est un bon exemple pour commencer, mais effectivement, si moi, mes parents, ils n'avaient jamais joué à un jeu vidéo, je préférais leur mettre ça dans les mains plutôt que Dark Souls. Voilà.
Petite question, le prochain jeu de David Cage, pour le coup, va être un peu plus drôle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la bande-annonce qu'on avait vue, un espèce de sorcier sur un fond vert, et puis qui d'un coup disait « cut, cut, cut », et puis qui a arrêté le film. Une espèce d'auto-parodie pour son premier jeu sur PS4. Est-ce que David Cage, faire de l'humour, c'est plausible, sinon possible?
Bah moi je le souhaite de tout mon cœur, parce que je veux pas du mal à cette personne, donc j'espère qu'il sait s'entourer, et que peut-être qu'un jour quelqu'un fera une blague dans un de ses jeux. Ou du...
Non, mais il a qu'à faire The Nomad Soul 2, mais peut-être qu'il fait pas The Nomad Soul 2 par manque de moyens, je pense, parce que The Nomad Soul, aujourd'hui il est passé à la full motion, la capture vidéo. Ouais. Donc il fait quasiment des films, mais il faut voir que faire un film ou faire de la capture vidéo, c'est moins cher que de faire des modèles, enfin de partir des choses. Donc peut-être effectivement c'est une question de budget aussi.
Donc de ce Final Lap, on retiendra deux choses. Déjà que nous ne haïssons pas David Cage, et surtout que c'est déjà la fin de l'émission.
Oh non, non.
Alors merci à vous, tout d'abord, de nous avoir écoutés pour ce deuxième numéro. À Inks à la production et à la coordination, à Aspic pour la réalisation, à DJ Pie pour l'habillage sonore, à nos deux chroniqueurs que vous retrouvez sur Twitter, bien sûr, @FibreTigre, @Michel_Pimpan. Cette émission, vous la retrouvez en podcast sur radio01.net. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à la partager sur les réseaux sociaux. Et une nouvelle fois, le dernier mot sera pour nos chroniqueurs. Alors, quel sera votre mot ce soir?
Jauge de vie.
Eh bien, moi, je vais retourner jouer à GTA.
On se retrouve le 11 novembre pour un nouveau numéro à 23h après Hotline Gianni sur Synops Live. D'ici là, prenez soin de vous. Salut.
Bye bye.